dur par un tout petit verset dans un psaume. Alors, ce message ce soir, il a une petite histoire. Enfin, une petite histoire. Ça me sert d'introduction. La semaine dernière, comme vous, hein, je priais pour, dans mes moments personnels, pour différentes situations. Et je pense que je ne suis pas le seul, mais il y avait des situations pour lesquelles je disais « Seigneur, je te prie pour un tel, pour une telle. Et Seigneur, c'est vrai, je le fais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça dure, je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Seigneur, et je discutais un peu avec le Seigneur. Voilà. Je ne dis pas que je polémiquais avec le Seigneur, je ne manifestais pas avec le Seigneur, mais je lui disais ce qu'il y avait sur mon cœur. Et comme je suis un peu têtu, je l'ai fait plusieurs fois, un peu comme la veuve avec le juge unique, vous savez, elle revenait à la charge. Bon. Et puis vendredi après-midi, dans l'après-midi, je n'ai pas compris tout de suite, mais il y a un verset qui est venu sur mon cœur. Bon, je connaissais ce verset, mais bon, et puis il ne me lâchait pas. Et puis à un moment donné, je savais où il se trouvait. Et je suis allé lire ce verset, je l'ai relu, j'ai relu le contexte un petit peu, et il m'a fallu un moment pour comprendre, mais j'ai réalisé que, en fait, le Seigneur était en train de répondre à mes questions. Et ça m'a fait un bien, parce que j'ai réalisé que, quelque part, le Saint-Esprit m'avait donné ce verset, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, je n'ai pas compris tout de suite, mais le Saint-Esprit m'avait donné ce verset, et ça m'a encouragé, ça m'a fortifié, ça m'a fait du bien, et je crois que si ça m'a fait du bien à moi, ça va vous faire du bien à vous. Ce verset, donc on va le lire en introduction, dans le psaume 29, au verset 10. Psaume 29, verset 10, où il est dit ceci, juste ce verset. Comme quoi, un verset de la parole, ça peut tout d'un coup, surtout quand le Seigneur vous éclaire, des fois des versets que vous avez lus 50 fois, mais là, ce jour-là, il prend une connotation plus forte, ça vous parle, ça vous interpelle, et vous vous dites « Waouh !» Voilà ce qu'il est écrit. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Ce qui est très intéressant dans ce verset, notamment dans ce psaume 29, c'est que c'est David qui l'a écrit. Vous regarderez au départ, c'est un psaume de David. Et à ce que je sache, David, à l'époque du déluge, il n'était pas là. Hein, vous voyez, il n'était pas là. Voyez. Donc ça montre bien que cette parole, il la donne inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a inspiré pour écrire. Et pour que ça nous arrive jusqu'à nous aujourd'hui, que lors du déluge, Dieu était sur son trône, hein, et l'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est un verset hyper important, hyper important. Parce que ça nous enseigne une chose, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et vraiment, ça a répondu aux questions que j'avais demandées au Seigneur. Vous voyez ? Mais je crois que ça doit nous encourager les uns et les autres, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quelle que soit la tendance, quel que soit ce que nos yeux voient, Dieu est au contrôle. Et je vais peut-être même aller plus loin, même quand les choses ne se passent pas comme peut-être nous l'aurions imaginé, il n'en demeure pas moins vrai que Dieu reste au contrôle. Voyez ? Et ça, c'est important de le réaliser. Et quand je pensais à cette histoire du déluge, on ne va pas le lire dans le livre de la Genèse, mais ça a dû être impressionnant quand même, hein. Ce déluge qui s'est abattu à l'époque de Noé, il n'y en a que 8 qui ont été sauvés, l'histoire de l'arche et tout ça. Nous, on lit ça, on connaît l'histoire. Je crois qu'il y a beaucoup de textes, le problème, c'est qu'on les connaît tellement que, bon, on lit ça, mais ça a dû être terrible, ça a dû faire un vacarme, il a dû avoir des cris. Enfin, vous voyez, je me disais, mais. Et Dieu nous montre que dans cette situation-là, il était au contrôle. Vous voyez ? Il était au contrôle. Hein. Et ce qui m'interpelle encore plus, et vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, donc des siècles plus tard, hein, vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous savez qu'à un moment donné, Jean va avoir cette vision. Dieu va le transporter dans le ciel et va lui montrer les choses qui doivent arriver. Le début du chapitre 4, je prends juste ce verset. Hein, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Elle est toujours ouverte aujourd'hui. Hein. Un jour, elle va se fermer, mais pour l'instant, elle est toujours ouverte. Hein. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit... « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et à partir de là, jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, Dieu va lui montrer un petit peu tous les événements, tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, tout ce qui va intervenir. Mais ce que je voulais relever, on ne va pas le lire, vous le lirez à la maison, à tête reposée, ce chapitre 4 de l'Apocalypse, il y a quelque chose qui revient plusieurs fois, c'est que dans la vision que Jean a, il est bien spécifié plusieurs fois que Jean voit celui qui était assis sur le trône. C'est répété 4 fois dans le chapitre 4. Et vous allez même après chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, c'est répété à chaque fois. Mais dans ce chapitre 4, il y a quelque chose qui revient, c'est que Jean voit celui qui est assis sur le trône. Ce que je veux dire, c'est que la vision qu'il a eue, ce n'est pas celle d'un Dieu qui est en train de se gratter la tête pour se dire comment je vais faire. Comment je vais m'y prendre, parce que la situation, elle a un peu dérapé dans le monde, c'est pas comme j'avais prévu, là, c'était pas ça que j'avais imaginé, là, c'est pas ça que j'avais pensé. Quand il a cette vision, il voit pas Dieu en train de se gratter la tête, en train de se dire comment on va faire, comment on va s'y prendre, ça, c'était pas prévu. Non, il voit un Dieu qui est sur son trône et qui règne. Voyez, il voit un Dieu qui est au contrôle. Et ça me touche parce que, finalement, si on fait un petit peu le récapitulatif, dans le psaume 29, David, inspiré par le Saint-Esprit, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Il était au contrôle. Mais vous allez dans le livre de l'Apocalypse, des siècles plus tard, vous avez exactement la même chose, la même vision. Dieu est toujours sur son trône et il est au contrôle. Et la grande leçon pour nous, c'est celle-ci, c'est que du début à la fin, Dieu reste et demeure au contrôle. Et ça, quelque part, ça doit rester ancré dans notre cœur, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, du début à la fin, Dieu n'en demeure pas moins au contrôle. Il contrôle les situations, rien ne lui échappe, il n'est pas pris au dépourvu. Nous, on ne contrôle pas grand-chose, mais lui, il est au contrôle, voyez. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser, parce que le grand mensonge de l'ennemi de notre âme, justement, c'est de nous amener à essayer de nous déstabiliser d'une façon ou d'une autre, en nous faisant penser que peut-être... Ben, si les situations sont ce qu'elles sont, c'est que Dieu est passé au contrôle que ça. Tu as vu la situation, tu as vu l'état de la situation, tu as vu le problème, tu as vu depuis le temps que tu pries, tu as vu un peu qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien qui te dit que ça va changer, ça ne bouge pas, même ça empire. Vous voyez, ce genre de choses-là qui peut-être nous amènerait à baisser les bras et se dire ben, c'est vrai après tout, est-ce que vraiment je ne perds pas mon temps, voyez. Et quand le découragement vous prend, vous savez, quand l'abattement vous prend, quand l'envie de baisser les bras vous prend, vous avez beau essayer de dire non, mais bon, mais c'est terrible, voyez. Et ça, c'est ce que l'ennemi de notre âme veut arriver à nous faire penser, que Dieu a perdu le contrôle. Que Dieu a perdu le contrôle dans nos situations, que Dieu a perdu le contrôle dans nos vies. Mais on se rend compte en fait que non, du début, le déluge, jusque dans l'Apocalypse, Dieu est assis sur son trône et il contrôle les situations. Et c'est pour ça que j'aime toutes ces situations dans les évangiles où des fois on voit le Seigneur qui agit à l'encontre de toute logique. Des fois, on a l'impression que on attend le Seigneur dans le zig, il est dans le zag, quoi. Vous voyez, on attend le Seigneur là-bas, il est là-bas. Et des fois, dans nos vies, c'est un peu la même image, quoi. Vous voyez, on se dit, Seigneur, j'ai l'impression d'être toujours à contre-temps, quoi. Vous voyez, par exemple, à quoi je pense, rappelez-vous l'histoire de Lazare, on la connaît. Hein, vous avez ces versets. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à ce verset 6, lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Laisse-moi le verset. C'est surprenant, quand même. Hein. D'autant plus que, si on ne l'a pas mis, mais le verset juste avant, il est dit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Juste avant, il dit ça. Et juste après, ça a l'air totalement en contradiction. Jésus aime Marthe, aime sa sœur, aime Lazare. Eh bien, comme cadeau, il reste deux jours là-bas où il est et il ne vient pas. C'est bizarre quand même, non ? Voyez ? Et puis vous allez un petit peu plus loin, vous connaissez ce qui se passe. C'est pour ça qu'on ne lit pas tout, je prends juste ce qui m'intéresse. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Vous voyez, on a l'impression que le Seigneur, la situation dérape, quoi. Vous voyez, il n'a pas mesuré, il n'a pas bien compris, il n'a pas bien cerné la situation. D'ailleurs, moi je comprends que les deux sœurs vont lui dire, vous vous rappelez, les deux sœurs vont lui dire, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais moi je comprends, j'aurais dit exactement la même chose. Je ne sais pas sur quel ton elles lui ont dit. Si c'était un peu, je ne sais pas, mais enfin, le lui ont dit, vous voyez. Moi, je crois qu'on peut tout dire au Seigneur. Hein. Et même des fois, si on est en colère, il faut lui dire au Seigneur, « Seigneur, je suis en colère. Hein. Seigneur, je comprends pas, ça m'énerve. » Mais on peut tout lui dire au Seigneur. Bon, pas à l'église, hein, mais à la maison. Hein. Mais à la maison, vous pouvez tout lui dire. Hein, voyez. Et je ne sais pas comment le lui ont dit, mais quelque part, mais moi, je comprends, parce que ça va à l'encontre de toute logique. Vous avez l'histoire de Jaïrus, on ne va pas lire, c'est la même chose. Jairus qui vient, ma petite fille est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains. C'est ça, comme on dit aujourd'hui, ça urge, quoi. La situation fait que là, il faut pas traîner, quoi. Et puis vous vous rappelez ce qui se passe, hein. Jésus y va, donc c'est bon, ça part bien. Et puis il y a la femme à la perte de sang qui arrive là, qui commence à... Enfin, vous connaissez l'histoire. Nous aussi, on lit ça vite. Combien de temps ça a duré? Moi, je ne sais pas. Est-ce que ça a duré 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, demi-heure? Je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que ça a retardé Jésus. Et les 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure qu'il a perdu là, ben, ils auraient été bien si... Vous voyez? Et quand Jésus arrive, vous vous rappelez ce qu'on lui dit, n'importune pas le maître, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Et puis c'est là que Jésus va dire, ne crains pas, crois seulement. Vous voyez, mais ce qu'il faut comprendre pour nous aujourd'hui au travers de ces textes, c'est que dans nos vies, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même si des fois le Seigneur semble agir complètement à l'opposé de ce qui semblerait, à l'opposé de ce que nous on aurait fait, il n'en demeure pas moins vrai que le Seigneur est au contrôle. Et dans ces deux situations, on se rend compte que chaque fois, le Seigneur s'est manifesté, chaque fois le Seigneur est intervenu, mais ce que le Seigneur a voulu montrer, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il était au contrôle, voyez, et c'est ça, et je crois que ça doit nous encourager. Moi, quand je vois, des fois, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible, tu vois pas, tu comprends pas la détresse, etc. Et moi, je me mets à la place de la famille de Lazare, tu dis que tu l'aimes, et puis après, mais il est au contrôle, il est au contrôle. Vous noterez que même sur la croix, Jésus est au contrôle. Même sur la croix. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le diable a tout fait pour le faire redescendre. Jusqu'au dernier moment. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Vous voyez ? Et regardez, Jésus, même sur la croix, est tellement au contrôle qu'il y a un petit détail qui est là. Et quand on y réfléchit, c'est assez intéressant. Jésus, là, est en train d'agoniser. Il est au bout du bout. Le tout est accompli, pas encore prononcé. Et il est dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous imaginez, nous, là aussi, on lit ça très vite, mais vous imaginez, tu peux me remettre le premier verset, le verset 28. Jésus est en agonie, là. Il est en pleine souffrance. On sait que la croix, c'est terrible. Au niveau physique, c'est terrible, voyez. Ben, il sait que tout est fini, tout est accompli. Mais il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Jusque dans ce détail-là, il va aller jusque dans ce détail-là. Ça, c'est l'accomplissement d'une prophétie, parce que ça, c'était prophétisé hein, dans l'Ancien Testament. Hein. Je n'ai pas la référence en tête, mais c'était prophétisé. Mais vous voyez, jusque dans ce détail-là, le Seigneur va y aller. Vous voyez, il était au contrôle, même jusque-là. Vous voyez, même jusque-là, on aurait pu dire, oh, ça, c'est pas grave. Vous voyez. Mais jusque-là, le Seigneur est au contrôle. Et je crois que c'est important de réaliser que dans nos vies, c'est la même chose. Jusque dans les moindres détails, le Seigneur est au contrôle. Jusque dans les moindres détails. Vous voyez. Des fois, bon, on se dit, nous, il faut pas regarder aux détails. Mais le Seigneur, lui, jusque dans les moindres détails, il maîtrise. Il est au contrôle. Et ça me fait tellement, tellement de bien de réaliser ça. J'aime aussi le récit de la tempête apaisée. C'est pareil. Vous rappelez un petit peu l'histoire. Déjà, Jésus qui dort dans la barque. Bon, ben là aussi. Nous, on lit ça, bon, on le connaît. C'est normal que quelqu'un dorme dans une barque pendant que la barque elle est en train de prendre l'eau. Enfin, je sais pas, vous avez déjà réfléchi à ça, vous ? La barque, elle prend l'eau, tout le monde est trempé jusqu'aux os, ça bouge de tous les côtés. Pour avoir fait la traversée Ajaccio-Toulon plus d'une fois et avoir été pris dans la tempête, je peux vous dire quand ça bouge. Hein. Et en général, vous le sentez. Hein. En général, vous le sentez. Même si vous êtes couché sur le lit, sur la banquette, là, quand ça monte et que ça redescend, que ça fait comme ça... vous le sentez. Lui, il dort. Et puis alors, il dort tellement que vous avez remarqué, il a fallu aller le réveiller, quoi. C'est... Et c'est vrai qu'il y a des tests comme ça. On est là, on se dit, on a tellement, on lit, mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Quelque part, Jésus dort, vous voyez. Et puis, n'oubliez pas que parmi les disciples, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient des spécialistes de la pêche, qui étaient des marins aguerris. Donc, ils avaient l'habitude, quoi. Ils maîtrisaient, ils avaient l'expérience. Et peut-être même qu'au départ, bon, mais Jésus dormait, il était fatigué. Ils se sont dit, non, non, mais c'est bon, on maîtrise, on a l'expérience, nous, ça va, tout est sous contrôle, sauf qu'à un moment donné, tout leur a échappé, quoi. Et c'est là qu'ils vont réveiller le Seigneur, vous voyez, qu'ils vont le réveiller parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent plus rien, comme nous, des fois. Hein. Des fois, on se rend compte qu'on ne maîtrise plus rien. On prie, on compte sur la grâce de Dieu, on a fait des expériences avec Dieu, alors on se les remémore, hein. On a des années de conversion, mais on se rend compte que des fois, malgré tout ça, on ne maîtrise rien. Vous voyez, on ne maîtrise rien. Et la leçon pour nous, elle est importante, hein, finalement. C'est que le plus important dans tout ça, le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que Jésus est dans la barque ou pas? C'est ça le plus important. Si Jésus n'est pas dans la barque, on peut se faire du souci. Alors peut-être je pose la question ce soir, peut-être elle est inutile, je ne sais pas. Est-ce que Jésus est dans la barque? Est-ce qu'on a fait monter un jour Jésus dans la barque? Parce que si ce n'est pas fait, il faut le faire, ça commence par là. Mais si Jésus est dans la barque, moi je bénis le Seigneur parce que je sais que tout est sous contrôle. Et que même si ça tangue parfois, même si parfois ça prend un peu l'eau, même si parfois on est un peu éclaboussé, on est un peu mouillé, même si parfois, vous savez, moi je me souviens, quand ça tombe là, boum, ça fait un bruit. Des fois dans nos vies, les situations font que ça fait du bruit, quoi. C'est impressionnant, mais... Si Jésus est là, ça ne coulera pas. Si le Seigneur est dans la barque, le Seigneur est au contrôle. D'ailleurs, quand Jésus se lève, vous rappelez ce qui se passe, on connaît l'histoire, mais ça montre bien que quelque part, le Seigneur était au contrôle. Au contrôle. Et peut-être ce soir, dans nos déluges, dans nos tempêtes, appelez ça comme vous voulez, ben c'est bon de se rappeler que ben si moi je ne maîtrise rien, le Seigneur, lui, est au contrôle. Voilà. Lors du déluge, il était sur son trône. L'Éternel sur son trône. Et vous avez remarqué alors, dans ce psaume qu'on a lu, là, psaume 29, verset 10, lors du déluge, il était sur son trône, mais heureusement que le verset ne s'est pas arrêté là, il est dit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Il était sur son trône lors du déluge, mais il ne s'est pas arrêté d'être sur son trône. Il l'est encore aujourd'hui, et il le sera éternellement jusqu'à la fin. Moi, je bénis le Seigneur, parce que même quand des fois la tempête est là, qu'on ne comprend pas trop, qu'on ne maîtrise plus rien, et c'est peut-être le cas ce soir, ben, de dire, Seigneur, toi, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Et puis, je termine par... Là aussi, ça m'a interpellé. Je pensais à Job, l'histoire de Job. S'il y en a un qui a traversé une tempête terrible, c'est Job. Je crois que s'il fallait faire une classification des souffrances dans la Bible, celle de Jésus est là en premier. Sur la croix, on ne peut pas s'imaginer tout ce que Jésus a enduré. Il a supporté le poids du péché, il a supporté l'abandon du Père. Enfin, physiquement, on n'en parle même pas. Numéro 1, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Après, si on vient à numéro 2, je me dis que Job, vous voyez, il n'est pas loin. Hein. Bon, on ne va pas se battre. Hein. Mais enfin, Job, on peut dire qu'il a été secoué, ballotté. Enfin, ce qu'il a vécu, c'est terrible, quoi. Même émotionnellement, psychologiquement, de se voir mourir, de se voir avec la peau sur les os, parce qu'il le dit, hein, quand vous lisez, il dit, il ne reste plus que la peau sur les os, il a plus rien. Vous voyez, on sait qu'il n'avait rien fait. Alors, bon, il y avait les trois amis, là, qui, quand vous avez des amis comme ça, c'est même pas la peine d'avoir des ennemis. Bon, bref, vous vous dites, mais quand vous lisez ça, vous dites, c'est invraisemblable ce qu'il a vécu. Hein. Et d'ailleurs, vous rappelez que plus d'une fois, il a demandé la mort. Il a demandé la mort. Et j'allais dire, on ne va pas aller le blâmer. Hein, même il va maudire le jour de sa naissance. Alors, on est compte comme il souffrait. Hein. Et puis au milieu de tout ça, il y a des versets qui m'ont interpellé. Rappelez-vous, Job 38, verset 1er, c'est là où ça va un peu basculer, vous vous rappelez, dans l'histoire. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Et puis au verset 40, vous avez la même chose. Verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et, je réfléchissais à ces deux versets et je me disais, mais on ne voit pas Dieu en train d'arriver là, un peu tout ébouriffé, vous voyez, dire, oh mon pauvre Job, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Oh là, je pensais pas que t'en étais là, je pensais pas que c'était aussi grave, hein, vous voyez, ce genre de truc, quoi. On va pas, oui, il y a un décalage, hein, vous inquiétez pas. C'est 41, voilà, sur la Bible là-bas, il y a un décalage, mais c'est chapitre 40, verset 1er. Hein, on ne voit pas Dieu arriver tout, vous voyez, tout, qui découvre la situation. Non, il ne découvre pas la situation. Et dans ce qu'il va lui dire, entre autres, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Regardez, Job 38, il va lui dire certaines choses. Il va lui dire ceci. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposais ma loi, écoutez bien, en parlant de la mer, hein, quand je lui imposais ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis « tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Il est en train de dire à Job, « j'ai fait la mer, j'ai tout fait, etc. Mais j'ai fait la mer, mais la mer, j'ai dit « tu vas jusque-là et pas plus loin. » Vous voyez ?« Tu vas jusque-là et pas plus loin. » C'est comme si Dieu était en train de dire à Job, « j'ai tout créé, et à ma création, et notamment la mer, puisqu'il parle de la mer là, j'ai dit jusque-là et pas plus. » C'est dire si Dieu contrôle. Hein. Jusque-là et pas plus loin. Et c'est comme s'il est en train de dire à Job, « et tu crois que dans ta tempête, je ne contrôle pas. Je ne maîtrise pas. » D'ailleurs, rappelez-vous, ça m'a rappelé ça, c'est qu'au départ, quand le diable est venu, vous rappelez, c'est hein, « ouais, mais tu sais, s'il te sert, c'est parce que tu le bénis, tatati, talala, enlève-lui ci, enlève-lui là, et puis après, enlève-lui la santé. » Vous voyez, qu'est-ce que Dieu va lui dire? « Ok, vas-y, mais jusque-là et pas plus. » Vous voyez? Jusque-là et pas plus, c'est-à-dire, c'est moi qui contrôle. Et tu n'iras pas plus loin que là où je t'ai dit d'aller. Vous voyez? Et quelque part... Job avait besoin, quand je dis ça, vraiment je me sens petit à côté de Job, hein, mais il avait besoin peut-être de réaliser au sein de sa tempête que celui qui avait tout créé et qui avait même dit à la mer, tu vas jusque-là et pas plus loin, dans sa tempête à lui, il était aussi au contrôle. Et Dieu était tellement au contrôle de sa situation qui pour moi, il y a ce passage qui est hallucinant, c'est la fin du livre de Job. Job 42, versets 16 et 17, c'est les deux derniers versets. Pour moi, c'est hallucinant. Quand on voit ce qu'il a vécu avant, quand on voit le désert qu'il a traversé, quand on voit l'état dans lequel il était, il n'avait plus que la peau sur les os, humainement parlant, il faisait peur à voir. D'ailleurs, vous rappelez que c'est quand même dit que quand ils sont arrivés, les amis, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas osé parler. Tellement ils l'ont vu, tellement ça les a séchés. Tellement ils pensaient peut-être pas qu'il était aussi mal, quoi, voyez. Vous voyez que des fois, quand vous voyez certaines situations, vous arrivez dans une chambre, des fois, quelqu'un qui... Hein, ça m'est arrivé plus une fois dans les services de fin de vie, vous arrivez, vous voyez quelqu'un, quand vous voyez son état, vous savez que si Dieu n'intervient pas, il ne va pas aller loin. Vous ne savez même pas quoi dire, quoi. Vous ne savez même pas quoi dire. Et les amis de Job, quand ils sont arrivés, qu'ils l'ont vu, je ne veux pas dire de bêtises, même pendant plusieurs jours, ils n'ont rien dit. Je vérifierai, mais tellement ils étaient impressionnés. Et pourtant, regardez la fin, c'est hallucinant. Job vécut après cela. Après quoi? Pour moi, le plus important, là, c'est le « après cela ». Parce que normalement, il ne devait pas y avoir de « après cela ». Il ne devait pas y en avoir. Mais Job vécut après cela 140 ans. Oh ça, c'est hallucinant, ça. 140 ans. Moi, je n'aurais même pas demandé 140 ans. 10 ans, ça m'aurait suffi. Hein. Je ne sais pas. Bon, bref, peut-être que je suis un peu... Mais 140 ans. Et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job, et, alors écoutez bien, c'est ça aussi. Moi, j'ai lu ça des centaines de fois, mais là, tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est... Job mourut âgé et rassasié de jours. Il n'est pas mort dans la tempête. Il est mort âgé et rassasié de jours. Il a vécu 140 ans de plus. Vous auriez dit ça à Job, au moment où il était dans sa tempête, il vous aurait regardé, vous aurait dit... Vous voyez ? Mais ça montre une chose. C'est que Dieu est au contrôle. Il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut. Et même si la situation, elle est ce qu'elle est, même si humainement parlant, mais Dieu fait ce qu'il veut, il est au contrôle. Et c'est ça que Job a eu besoin de comprendre. C'est peut-être là où il a eu besoin de mûrir, de grandir. Je le dis avec beaucoup de précaution parce que je me sens tellement petit à côté de lui. Mais quand il va dire « mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu », parce que là, tout d'un coup, il y a des choses qu'il a compris, il y a des choses qu'il a réalisées. Vous voyez, et dans cette situation, il a grandi à vitesse grand V, vous voyez. Et là, il vit quelque chose d'hallucinant, quoi. Il vit après cela. D'ailleurs, vous regarderez dans la Bible, des après cela, il y en a quelques-uns qui sont impressionnants. C'est là que ça nous montre que Dieu est au contrôle. Vous avez l'histoire du déluge. Il est dit, après cela, les fils de Noé enfantèrent, etc. Après cela. Oh, vous dites, c'est pas possible, voyez. Mais ça montre une chose, c'est que Dieu contrôle. Dieu contrôle, voyez. Et moi, je bénis le Seigneur de réaliser ça. Et ce soir, je voudrais tellement qu'en terminant, que les uns et les autres, on réalise ça. Et je reviens à ce verset qu'on a commencé, par lequel on a commencé. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et j'aimerais nous dire vraiment ce soir, les uns et les autres, pour ce qu'on vit maintenant, pour les situations dans lesquelles on est les uns et les autres maintenant, pour les problèmes pour lesquels on prie maintenant. Et je suis sûr qu'on a tous dans nos cœurs des sujets, des choses pour lesquelles on bataille. On est là, on prie, on pleure. Excusez-moi l'expression, on sue, on est là devant Dieu. On dit, mais Seigneur, on se bat. Dieu est au contrôle. Voilà. Dieu est au contrôle. Voilà. Si on lui appartient, si on lui a donné notre cœur, si on marche avec lui vraiment comme il faut, et quand je dis comme il faut, ben, c'est dans le sens de lui plaire, vous voyez, hein, et de faire autant que faire ce qu'il honore, mais Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Et l'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin. Et j'aimerais tellement que ça puisse nous encourager les uns les autres. Seigneur, je ne comprends pas tout, ça m'échappe, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui bouge. Ouais, Seigneur, m'encourage avec ça, je voudrais que ça puisse nous encourager. Mon frère, ma soeur, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Même si le diable essaie de te faire croire le contraire, te faire penser le contraire, te dire regarde, t'entends ce qu'il dit, t'entends, tu vois ce qui se passe, c'est tout le contraire. Qu'importe, s'il est dans la barque, il est au contrôle. Il est au contrôle. Et moi, ça me fait du bien. Et il est du début à la fin. Oui, à l'époque du déluge, il était sur son trône. Mais Jean, il a cette vision de celui qui est assis sur le trône. Et moi, je bénis le Seigneur parce qu'on appartient à celui qui a tout sous son contrôle. Les hommes pensent tout maîtriser, ils ne maîtrisent rien du tout. Nous, on se rend compte, on le touche du doigt, qu'on ne maîtrise rien du tout. Mais notre Sauveur, il est au contrôle. Et j'aimerais tellement que ce soir, je m'arrête là, puisse vraiment le réaliser, serrer ça sur notre cœur. Moi, ça m'a fait du bien. Et je me dis, ben Seigneur, moi, je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout. Et de toute façon, plus on va essayer de comprendre, moins on va comprendre. Alors Seigneur, je veux te faire confiance et je veux m'attendre à toi. Notre Dieu, il est au contrôle. Alléluia. Seigneur, ce soir encore, tu nous rappelles ces choses simples, tu les remets devant nos yeux. Et Seigneur, je te demande vraiment de nous aider vraiment à l'assimiler, à le comprendre et à l'accepter par la foi, Seigneur. C'est vrai que peut-être nos yeux aujourd'hui voient autre chose, mais Seigneur, ce qui est important, c'est ce que ta parole nous dit, c'est ce que ta parole me dit. Merci pour cette parole de David inspirée du Saint-Esprit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Tu es au contrôle, rien ne t'échappe, tu maîtrises les situations. Seigneur, je te prie peut-être pour toutes ces prières qui montent là, qui sont secrètes, dans le secret des chambres, dans le secret des cœurs, pour tel ou tel sujet, pour tel membre de notre famille, pour telle personne que nous voudrions voir se tourner vers toi ou revenir à toi, pour tel sujet ou telle situation qui semble tellement, Seigneur, difficile, Seigneur. Je veux encore réaliser, Seigneur, que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu contrôles tout. Et Seigneur, que même si nous on est dépassés, même si nous on est comme les disciples dans la barque, parfois affolés, parfois on ne comprend pas, parfois on est comme les sœurs de Lazare, Seigneur, on ne comprend pas. Seigneur, toi tu demeures et tu restes au contrôle. Alors Seigneur, je te prie Seigneur de renouveler notre foi, Seigneur de ne pas nous laisser déstabiliser par les mensonges de l'adversaire, mais de garder nos yeux plus que jamais fixés sur toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, nous attendons à toi parce que tu es fidèle, Seigneur. Et en tout état de cause, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, merci parce que tu ne fais pas défaut, merci parce que nos vies, nos existences, nos familles, nos foyers, nos enfants, Seigneur, tout est entre tes mains, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Alors à toi soit la gloire, garde-nous dans ta paix. Et si quelqu'un ce soir n'est pas dans la paix, est peut-être dans l'angoisse, peut-être a du mal à dormir, Seigneur, je te prie de le visiter, Seigneur, de mettre ta paix dans son cœur, ta joie dans son cœur, de renouveler sa foi, Seigneur, et de lui faire du bien. Je te demande dans le nom de Jésus, Seigneur, à toi la gloire. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Bénis cette semaine, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.